This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
J'ai fait ligaturer mes trompes à 28 ans car je ne veux pas d'enfant. Un témoignage, mademoiselle, lu par Doro. Anne ne veut pas d'enfant et elle est sûre de ne jamais en vouloir. Elle a donc entrepris les démarches pour se faire ligaturer les trompes à 28 ans en étant nullipare. Mais avant de commencer, petite précision sur la tocophobie ou la peur de la grossesse. La peur intense de la grossesse a un nom, c'est la tocophobie. Selon Psychologie, il en existe deux niveaux. La tocophobie primaire concerne les femmes chez lesquelles la phobie s'installe dès l'adolescence, et en grandissant, dans la façon dont la personne forme sa propre image de la grossesse et de l'accouchement. La tocophobie secondaire est causée par une mauvaise expérience personnelle à la naissance d'un enfant. Il s'agit d'une des raisons, parmi de nombreuses autres, pour lesquelles Anne n'a jamais désiré d'enfant. Aussi loin que remontent mes souvenirs, j'ai toujours su que je ne voulais pas d'enfant. Même quand j'étais gosse, je n'ai jamais aimé les gosses. Il y a beaucoup de child-free, personnes sans enfants par choix, qui s'empressent de dire « je n'en veux pas, mais j'aime bien les enfants hein. ». Personnellement, j'assume le fait de ne pas aimer côtoyer les plus jeunes. Pour l'anecdote, ma mère était assistante maternelle, et elle a commencé quand j'étais en primaire. J'ai vu défiler et dû supporter les gamins de tous les âges, de tous les types. Ça m'a confortée dans mon idée. J'ai aussi une peur panique même, de me retrouver avec un être qui me pousse dans le ventre. C'est impossible à envisager, ça me dégoûte. Quelques semaines avant mon opération, teasing de la suite, j'en ai fait des cauchemars. Un docteur m'annonçait que j'étais en cloque et que c'était trop tard pour revenir en arrière. Horrible. Jusqu'à la stérilisation, j'étais sous pilule depuis des années. Mais c'était pas terrible pour moi. Libido à l'ouest, dépression, et sur la fin, pseudo-monstru qui débarque avant la fin de la plaquette et me mettait en PLS 10 jours au lieu de 5 normalement. La joie. J'avais essayé la microdosée en vue d'un implant contraceptif, mais je ne l'ai pas supporté. Et se faire poser un stérilet ou DIU quand on est nullipare à Limoges, apparemment ça demande de se lever tôt. J'étais sous pilule par défaut, voire par dépit donc. Et à la base, je n'avais jamais entendu parler de la ligature des trompes. C'est un ami trans qui a évoqué le sujet en soirée, et à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup réfléchi. Je savais que je ne voulais pas d'enfant, mais j'ai quand même pris le temps d'y penser pour ne rien regretter. Et c'est pour ça que je trouve très condescendant les gens qui disent « tu vas le regretter », comme si c'était une décision impulsive. Le déclic, ça a été une discussion avec des collègues. J'ai eu droit à un véritable bingo des child-free, à toutes les réflexions reloues sur ce choix de vie qu'on entend encore beaucoup trop souvent. Ma colère m'a servi de moteur. J'avais 27 ans, et à 28 ans, j'étais stérilisée. Je me suis renseignée sur les conditions légales pour accéder à une stérilisation de ce type. Il faut avoir au moins 18 ans et attendre 4 mois pour réfléchir entre les deux principaux rendez-vous. Ça me va. J'en ai parlé à mon généraliste. J'étais dans mon droit, dans la loi. Je l'ai informé que puisqu'il me tenait pour que j'aille faire un frottis chez une gynéco, je demanderais en même temps une stérilisation. Il a explosé de rire et m'a répliqué que si ma gynéco acceptait, elle serait hors la loi. J'ai bien senti que je ne le convaincrais pas. J'ai donc été voir une gynéco qui ne voyait pas d'inconvénient à ma démarche, mais m'a expliqué que ça ne se jouait pas à son niveau. Cependant, j'ai appris plus tard qu'elle aurait pu me faire une lettre attestant qu'on en avait parlé. Les 4 mois de réflexion auraient alors débuté à ce moment-là. J'ai découvert un reportage sur le sujet, dans lequel plusieurs professionnels de la santé donnaient leur avis. Il y en avait un qui me semblait tout à fait ok, et n'officiait pas trop loin de chez moi. J'ai pris rendez-vous. C'est le docteur Pierre Panel, chef de service du centre de la femme à l'hôpital André Mignot en région parisienne. On peut même prendre rendez-vous en ligne. Les consultations sont assurées pour la plupart par des internes, mais elles ont toutes été super. Pendant le premier rendez-vous, la gynéco m'a rappelé la loi et m'a tout expliqué. Les types de stérilisation, clip, ligature, les risques encourus, anesthésie générale, risque de grossesse extra-utérine, etc. J'ai rempli le dossier, notamment la lettre prouvant que ce premier rendez-vous informatif a eu lieu à telle date, ce qui enclenche le délai de réflexion. Normalement, ben ça suffit. Mais comme en France, stériliser une personne nullipare reste un sujet sensible, l'hôpital m'a demandé de voir une psy. Ils en ont une à disposition, c'est pratique. Même si on m'a expliqué que ce n'était pas du tout obligatoire. L'interne que j'ai vu ce jour-là m'a même dit d'éviter l'un des 3 praticiens et praticiennes disponibles, car il était vieux jeu, pour ne pas avoir de soucis. Honnêtement, voir une psy ne m'enchantait pas, mais j'ai joué le jeu. Ça rassure les équipes, ce qui les motive à continuer et à accepter des demandes comme les miennes. Alors je l'ai fait. L'hôpital m'a collé le second rendez-vous 3 mois et demi plus tard. Comme ça, l'opération est planifiée pile à 4 mois. Ça évite de perdre du temps. Le jour en question, même topo que la dernière fois. Est-ce que je suis toujours ok? Et c'était parti. Comme pour toute opération, j'ai fait des prises de sang et vu l'anesthésiste. Étant donné que j'étais flexible sur les dates de rendez-vous, tout est allé assez vite. J'avais bien fait comprendre à la psy que jamais, jamais je ne voudrais de polichinelle dans le tiroir, donc j'ai eu recours à la ligature des trompes. Car les clips, eux, peuvent s'enlever et les trompes se rouvrir. L'opération est une célioscopie. La caméra passe par le nombril, 5 mm de diamètre, et les deux instruments soit par deux trous sur les flancs, soit par trois trous au-dessus du pubis de 3 mm. On rentre le matin, on sort le soir. C'est ultra rapide. Le plus long, c'est le temps que le corps se remette à tourner à peu près normalement pour pouvoir rentrer chez soi. Le pipi pourrait être une épreuve de Koh-Lanta. Ça ne fait pas vraiment mal le jour même. Ça tire un peu comme quand on a ses règles, mais c'est tout. On a un arrêt de travail pour une semaine. J'en ai eu deux parce que j'ai un travail physique en extérieur. Et si les premiers jours sont assez douloureux, je toussais, c'était du bonheur, ça passe tranquillement avec beaucoup de repos. Au bout de 10 jours, c'était fini. Les plaies sont fermées par de la colle. C'est très moche, mais ça s'enlève comme des croûtes au bout de 2 semaines, et on a de toutes petites cicatrices qui disparaissent très vite. Il y a juste un dernier rendez-vous, un mois après l'opération, pour vérifier que tout va bien et que tout se résorbe normalement. Là, ça fait à peine plus d'un an et je n'ai aucune trace. Au niveau contraception, j'ai fini ma plaquette de pilules quelques jours après l'opération. La stérilisation par ligature est efficace tout de suite, mais je préférais ne pas stresser mon corps encore plus en arrêtant les hormones d'un coup. Il a fallu un peu de temps pour que mon organisme se remette à fonctionner normalement. Mais maintenant, je vis tellement mieux qu'avec la pilule. Même psychologiquement, j'ai un poids auquel je ne faisais pas vraiment attention qui s'est envolé d'un coup. En salle de réveil, quand on m'a dit « c'est bon, c'est fait, tout s'est bien passé », j'ai commencé à pleurer de soulagement. Plus de panique, au moindre retard de menstrues. Plus de galères de pilules. Fini les ordonnances à refaire tous les 6 mois, les trajets à la pharmacie tous les trimestres, la plaquette à trimballer partout. Le pied ! Par contre, l'autre côté de la médaille, c'est que j'ai retrouvé mon ancien cycle, bordélique et ultra douloureux. Mais bon, ça c'est les hormones, pas la stérilisation. J'ai juste les trompes coupées, rien ne change dans la mécanique. J'en ai parlé un maximum autour de moi, parce que je trouve ça important que les gens sachent que ça existe en fait. Mes potes qui me connaissent, et m'ont vu quand il y a des gosses dans le coin, étaient contents pour moi. Ma mère a un petit quai sur le cou, quand je lui ai dit que j'envisageais de le faire. Mais on en a discuté un peu, sans le dire à mon père, plus vieux jeu. Maintenant, elle est contente pour moi, parce qu'elle sait que je me sens beaucoup mieux. Je l'ai aussi dit à mes collègues, et là, ça a été folklore, mais je l'ai fait exprès pour les narguer. Ça m'amuse de voir les gens galérer à trouver des arguments pour me convaincre de faire des enfants. Par contre, ma seule collègue féminine était super intéressée. Ça m'a fait plaisir de pouvoir l'aider. À l'époque, j'étais en couple et je suis toujours avec la même personne. Il avait un peu de mal au début, pas tant parce qu'il voulait des enfants, mais surtout parce qu'il n'avait pas pensé au fait que non, ce n'est pas obligatoire en fait. Tu peux ne pas te reproduire. Je lui ai dit avec un peu plus de forme que ça bien sûr, ce que je dis aux gens qui me sortent « Non mais attends, si jamais un jour tu rencontres l'homme de ta vie et qu'il en veut, tu vas faire quoi, oh là là ?» Puis déjà, c'est quoi ça, l'homme de ma vie ? À savoir, il pourra toujours en faire avec quelqu'un d'autre. Moi, c'est mort, je ne veux pas en entendre parler. Mon compagnon a eu le temps de s'y faire. Le temps que moi aussi j'y réfléchisse, et pour finir, c'est lui qui m'a emmenée à l'hôpital et qui est revenu me chercher pour jouer au garde-malade. Voilà ce que j'ai appris en me faisant ligaturer les trompes. J'ai appris que la colle pour fermer les plaies existe, que le reste de l'air insufflé pendant la stéthoscopie remonte sous la peau du dos en faisant des bulles, et qu'apparemment j'ai un foie en excellente santé. Plus sérieusement, il y a un truc qui m'a retourné le cerveau. C'est que le taux d'efficacité de la stérilisation n'est pas de 100%. Comme la nature trouve toujours un chemin, la grossesse est possible, mais sera très certainement extra-utérine. Et malheureusement, on peut en mourir avant de comprendre ce qui déconne. Il faut faire attention. Est-ce que je regrette ? Non. Avant de le faire, j'y ai pensé. Est-ce que je risque pas de regretter ? Est-ce que c'est pas mon esprit de contradiction ? Ma mère n'en voulait pas non plus, des enfants, et elle a bien fini par céder à la pression sociale, et elle en a même fait deux. Du coup, j'ai essayé de me projeter dans la vie familiale avec des enfants, mais j'ai réalisé que je ne l'avais jamais fait, parce que ça ne m'intéresse juste pas. Et plus le temps passe, plus je vois le monde qui part en cacahuète, plus je bénis ma décision. Pour moi et pour les pauvres gosses qui n'ont pas mérité de naître dans un contexte pareil. Je ne comprendrai jamais qu'on considère les child-free égoïstes. On ne fait de mal à personne, et surtout pas à nos enfants.